Très belle matinée bon réveil à l'écoute de Radio Chablais, il est 6h. Bienvenue, décollage c'est parti et ça jusqu'à 9h. Tout de suite, place à l'actualité.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Avec le journal de 6h de Ludovic Turin. Bonjour Ludovic.
Bonjour Bastien, bonjour à tous. Un important chantier est en cours sur la 9 entre Aigle et Villeneuve. L'Office fédéral des routes y construit depuis avril dernier un passage à faune aérien sur le corridor des Grands Marais à la hauteur d'Yvorne. En raison d'une forte urbanisation, l'ouvrage doit permettre aux cerfs, chevreuils, lynx ou sangliers de traverser l'autoroute en toute sécurité. Et ce, dans un secteur crucial qui relie le Rhône aux Préalpes. Les explications du chef de projet auprès de l'Office fédéral des routes, Guillaume Garcia Mora.
Il faut savoir que l'infrastructure transport, aujourd'hui, elle constitue une barrière infranchissable pour la faune. Puis la construction d'un corridor autoroutier étanche, puisqu'on construit en fait les autoroutes avec des clôtures de part et d'autre, entrave drastiquement l'habitat de la faune et puis surtout les échanges génétiques entre populations. Et en fin de compte, le but de ces passages, c'est de permettre à la population faunistique de passer d'une région à l'autre et de pouvoir se reproduire aussi.
Débuté en janvier dernier, les travaux s'étaleront sur 2 ans avec une phase très visible au printemps prochain lors de la pose des arcs métalliques, nécessitant 5 nuits de fermeture complète de l'autoroute. Coût de l'ouvrage entre 12 et 15 millions de francs, financé entièrement par la Confédération. Un monitoring sur 2 ans vérifiera ensuite son bon usage par la faune. L'opération n'a duré que quelques secondes hier après-midi à Colombey-Murat. Des spécialistes ont fait imploser de l'intérieur près de 50 mètres cubes de rochers menaçant de se détacher de la falaise de la Barme, une technique choisie pour éviter un éboulement brutal et limiter le bruit. Par précaution, 300 habitants avaient été évacués avant le minage. L'intervention s'est déroulée sans incident et les riverains ont pu regagner leur logement dans l'après-midi. La commune dit avoir agi par prudence après l'identification d'un aléa rocheux susceptible de céder d'ici 30 ans. Une nouvelle année se termine pour Comme une histoire, proposée par l'association montésane Aussitôt, sinon nous. Ces soirées de contes à deux voix fêtent la fin de leur 2e année. Pour clôturer cette aventure humaine, une soirée est organisée à Colombey-Murat samedi. L'occasion d'échanger avec les conteurs qui ont animé ces soirées et de partir une dernière fois en voyage. Le but, faire découvrir une culture étrangère, mais aussi créer du lien entre la population. Comme une histoire propose des soirées qui ont lieu chez des habitants de différents villages du Chablais. Catherine Bessard, conteuse, nous rappelle le principe au micro de Martine Vistiner.
Ces veillées de contes, ce sont chaque fois une conteuse ou deux conteuses professionnelles qui parlent français et qui racontent une histoire avec une personne de langue maternelle étrangère. Donc comme ça, pendant une année, on a passé de village en village, on a raconté des histoires, des contes de Russie, des contes d'Ukraine, des contes de Bolivie, du Mexique, de Hongrie, entre autres.
Ces conteurs professionnels sont accompagnés d'une personne non francophone qui participe à la narration dans sa propre langue. Le Valais lance sa stratégie de durabilité dans les établissements subventionnés pour la période 2025-2029. Élaborée à la suite d'un état des lieux mené en 2024 dans plusieurs institutions, cette démarche vise à accompagner la transition écologique de 55 EMS, des 5 grands CMS du canton, ainsi que d'institutions actives dans le domaine du handicap. Son objectif, aider ces structures à réduire leur empreinte environnementale et à s'adapter aux effets du changement climatique. La stratégie débutera en janvier prochain et s'articule autour de 3 axes majeurs. Parmi eux, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés au climat et à la coopération entre l'ensemble des acteurs engagés sur le territoire cantonal, une sorte de feuille de route qui permet de mieux se coordonner pour Mathias Reynard, chef du département de la santé, des affaires sociales et de la culture.
C'est un guide, c'est une stratégie à moyen terme, ça pose des bases, ça fixe des objectifs généraux et puis surtout ensuite ça met ensemble des bonnes pratiques, partage des expériences et puis le rôle de l'État, le rôle du canton dans ce genre de choses, c'est surtout d'orienter, de conseiller et de mettre ensemble, de mettre en commun. Ce rôle de coordination de l'État, il est essentiel et c'est ce qui manque aujourd'hui aux institutions. Elles se retrouvent parfois un peu seules, avec déjà beaucoup à faire et ce qu'elles nous ont demandé vraiment, c'est que le canton vienne avec un petit soutien financier mais surtout avec un soutien de coordination.
Mathias Reynard répondait à Léa Journeau. Pour soutenir la mise en œuvre de ces mesures, l'État allouera un financement annuel de 250 000 francs entre 2025 et 2029, soit un total d'1,25 million de francs. La mobilisation de la fonction publique vaudoise ne faiblit pas. Pour la troisième semaine consécutive, plus de 1500 personnes ont manifesté hier devant le Grand Conseil à Lausanne, alors que débutaient les débats sur le budget 2026. Les syndicats dénoncent les 305 millions d'économies prévues par le gouvernement, dont 165 millions de coupes dans les subventions. Les manifestants ont symboliquement encerclé le Parlement, sifflant de nombreux députés à leur sortie. Il s'agit déjà de la cinquième journée d'action cet automne, après plusieurs rassemblements ayant réuni jusqu'à 28 000 personnes selon les syndicats. Une nouvelle mobilisation est prévue aujourd'hui avant une grève totale annoncée demain. L'industrie militaire suisse pourra plus aisément exporter sa production à l'avenir. La majorité bourgeoise du Parlement fédéral a fortement assoupli les règles légales, en particulier concernant la réexportation de matériel de guerre par des États qui ont acheté les armes à la Suisse. Le changement de stratégie provient de la guerre en Ukraine. Pourtant, la loi adaptée ne permettra toujours pas, même indirectement, d'acheminer des armes suisses en Ukraine. En fait, pour la majorité, si on veut renforcer la sécurité militaire de la Suisse, il faut consolider l'industrie d'armement, au risque de fouler au pied des valeurs comme la promotion de la paix et la neutralité. Le conseiller national UDC valaisan, Jean-Luc Adore.
On foule au pied aucun principe, en tout cas pas la neutralité. Le projet qui a été approuvé aujourd'hui par le Conseil national, c'est le fruit d'un accouchement assez long et presque douloureux, parce que justement, il a fallu éviter toute une série d'écueils. Et je crois que là, on a une solution qui permet tout à la fois de respecter notre politique de neutralité, de respecter les engagements internationaux de la Suisse, mais d'un autre côté, de permettre à nouveau à notre industrie de la sécurité de retrouver sa place sur les marchés internationaux, parce que sans possibilité d'exportation dans des conditions correctes, cette industrie va continuer à mourir. Et ça, c'est clairement pas dans l'intérêt de la Suisse, c'est l'inverse.
Des propos recueillis par notre correspondant sous la coupole, Serge Jubin. Notez que la gauche et le groupe pour une Suisse sans armée ont annoncé vouloir lancer un référendum. À l'étranger, aucun compromis n'a été trouvé sur les territoires occupés en Ukraine, malgré une rencontre jugée utile hier à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. Selon le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Utchakov, certaines propositions américaines pourraient toutefois être discutées, mais beaucoup de travail reste à faire avant un accord. La réunion, qui a duré 5 heures, a permis de dégager quelques convergences, mais aussi des critiques. Poutine en a profité pour dénoncer les actions destructrices des Européens dans ces négociations, les accusant d'entraver les efforts américains pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Enfin, en natation, excellent début pour Noé Ponti au championnat d'Europe en petit bassin à Lublin. Le Tessinois s'est qualifié hier pour la finale du 50 mètres papillon avec le meilleur temps, 21 secondes et 51, soit à seulement 19 centièmes de son record du monde. Déjà le plus rapide en série le matin, Ponti sera le grand favori de la finale ce soir. Le nageur de 24 ans participera aussi aux séries du 100 mètres 4 nages où il compte économiser son énergie.